17h à Washington, 21h à Nouakchott et 21h à Dakar. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission avec une interview exclusive que John Kerry, le secrétaire d'État américain, a accordée à la Voix de l'Amérique. Nous entendrons sa position sur le Sahel. Nous serons en Mauritanie pour notre dossier.
Aujourd'hui, il y a une prise de conscience et elle veut l'exprimer par cette marche pour plus d'égalité, plus de répartition de richesses entre toutes les franges de la population mauritanienne et pour qu'il y ait une justice sociale.
La Mauritanie, où les Aratines, c'est-à-dire les descendants des esclaves, ont manifesté hier pour réclamer plus de reconnaissance et de droits. Enfin, nous reviendrons sur le virus Ebola. Beaucoup de personnes proches de malades souffrent de stigmatisation. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. En République démocratique du Congo, 6 soldats de l'armée nationale ont trouvé la mort aujourd'hui dans le Nord Kivu, dans des affrontements avec les rebelles de l'ACPLS. L'information a été confirmée par le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass. En République centrafricaine, calme précaire au centre de Bangui après une nouvelle tension. Hier, dans une partie des 3e et 5e arrondissements, plusieurs quartiers proches de PK5 ont été secoués mardi soir par des tirs à l'arme automatique. Selon certaines sources, au moins une dizaine de personnes ont été tuées et plusieurs blessées. On fait le point avec Félix Yepassis Zembro.
La tension était vive toute la journée dans ces quartiers qui ont été le théâtre d'affrontements à l'arme automatique une bonne partie de la nuit. De nombreuses familles ont abandonné leur domicile par crainte d'une nouvelle violente flambée. Dans les quartiers Bazanga, Fondo et Sara, des habitants font état d'une dizaine de civils tués et de nombreux blessés. Ils accusent des groupes de musulmans armés d'avoir mené des représailles suite au lynchage d'un jeune musulman au quartier Fatima par des individus assimilés aux anti-Balaka. De son côté, le porte-parole des musulmans de PK5, Ousmane Abakar, a reconnu le mouvement de colère des jeunes sans confirmer le nombre des personnes tuées. Des blindés de l'opération Sangaris ont multiplié les patrouilles au PK5 et un hélicoptère de combat survolait le secteur. Ailleurs, à l'intérieur du pays, le convoi des musulmans de PK13 est finalement arrivé hier matin à Kabo. 287 déplacés sont restés sur place, pendant que le reste, 1113 déplacés musulmans, seront transférés à Sido, à la frontière tchadienne.
Violente manifestation de collégiens et lycéens à Niamey, la capitale du Niger. Des centaines d'élèves étaient dans la rue pour réclamer de meilleures conditions d'études. Ils auraient jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogènes. Sur ce qui s'est passé, écoutons Anassa Gibrilla, il est le président de l'Union des scolaires nigériens à Niamey.
Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui entre les élèves et les forces de l'ordre est lié à l'arrestation de 9 de leurs camarades au niveau du lycée Issa Corombé. Une arrestation qui fait suite à la sortie de ces lycées pour faire des revendications liées aux ventilations, aux ampoules et autres questions. C'était la semaine passée. À la suite de cette manifestation, il y a eu des casses, un véhicule qui était brûlé et deux motos. La police judiciaire a dû mettre la main sur les premiers responsables de cette école. C'est relativement à cette arrestation que les lycéens et collégiens de la ville de Niamey ont exigé la libération de ceux qui étaient détenus à la police judiciaire. Aujourd'hui, dans les environs de 13h-14h, on les a libérés.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est en Afrique pour des rencontres visant notamment à mettre un terme à la violence au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce soir dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Il va s'entretenir demain avec les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Kenya autour de la crise au Soudan du Sud, selon un haut responsable du département d'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et les Irakiens ont bravé la menace de la violence pour se rendre aux urnes. Aujourd'hui, il s'agissait des premières élections du pays depuis le départ des troupes américaines. Peu après la fermeture des bureaux de vote, Mugdal al-Sharifi, commissaire principal de la haute commission électorale irakienne, a annoncé que la participation s'est établie autour de 60% des inscrits sur la liste électorale. Et combat aux Philippines entre forces gouvernementales et combattants islamistes, les autorités annoncent un bilan d'au moins 15 morts. La Voix de l'Amérique dans un instant, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons donc l'émission par cet entretien exceptionnel que John Kerry, le secrétaire d'État américain, a accordé en français à La Voix de l'Amérique. Au micro de Jacques Aristide, il revient sur les défis sécuritaires de la région sahélienne et sur les appuis apportés par les États-Unis. John Kerry.
Il faut entraîner, il faut aider. On fait beaucoup à ce moment pour travailler avec les Français, pour donner les avions qui prennent les troupes, les gens militaires qui sont en train de chasser le Al-Qaïda. Et puis il faut travailler avec eux pour donner plus de aide, plus de l'équipement, tout ça. Et l'intelligence aussi, il faut provenir, il faut qu'ils sachent où se trouve l'ennemi et tout ça. Alors on travaille avec eux, on fait tout ce qu'on peut à ce moment. Mais quand même c'est difficile, mais les Français ont bien fait à ce moment et nous sommes fiers de travailler avec eux pour faire tout ce qu'on peut.
John Kerry, le secrétaire d'État américain. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102 FM, notre fréquence à Bamako. Notre dossier consacré aujourd'hui à la manifestation des Aratines, le nom que l'on donne aux descendants d'esclaves, hier à Nouakchott. Idriss Fall a joint Malik Fall, membre de l'IRA, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Il explique l'histoire et les défis des Aratines aujourd'hui. Malik Fall.
Être Aratine en Mauritanie veut dire être citoyen mauritanien issu de la communauté des esclaves et des anciens esclaves.
Et pourquoi ils ont manifesté hier ?
Ils ont manifesté effectivement pour réclamer leurs droits économiques, sociaux, culturels et politiques, pour un peu fêter le premier anniversaire du manifeste du 29 avril 2013.
Et c'est quoi ce manifeste ?
C'est un document, effectivement, qui un peu fait le diagnostic global de la situation des Aratines dans le pays, n'est-ce pas, au niveau de leur représentativité au sein de l'administration, mais également au sein du commandement et à toutes les structures étatiques. Donc l'idée du manifeste, c'est effectivement de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les préoccupations majeures des Aratines. Mais la dimension importante que les défenseurs du manifeste ou les initiateurs du manifeste ont compris, c'est qu'effectivement, il y a lieu de ratisser large, faire en sorte que toutes les autres composantes de la communauté mauritanienne puissent effectivement adhérer à ce document. C'est ainsi qu'effectivement les Wolofs, les Poulards, les Soninkés et les Bédanes ont été effectivement associés à la manifestation d'hier.
Est-ce qu'on peut dire que les Aratines sont des citoyens de seconde zone en Mauritanie ?
Oui, la triste réalité c'est qu'ils sont exclus du système. Et le drame c'est qu'ils sont majoritaires. C'est la plus grande composante nationale. Et malheureusement, l'esclavage ou le tort que les Aratines subissent est un mal historique qui les suit depuis très très, très longtemps et qui, à mon avis, constitue un obstacle majeur, n'est-ce pas, à la cohésion nationale et au développement du pays, tout court.
L'esclavage, ce n'est pas encore terminé en Mauritanie. Je croyais que c'était aboli.
Non. Il y a une volonté, effectivement, politique affichée à travers la création d'une agence pour juguler les séquelles de l'esclavage. Il y a des lois, il y a une cour spéciale pour juger les crimes d'esclavage et autres. Mais la réalité du terrain est qu'effectivement, la pratique est encore persistante dans certaines zones de la Mauritanie.
Malik Fall, membre de l'IRA, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Cette marche a donc été organisée hier car le manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Aratines ou descendants d'esclaves a été créé il y a tout juste un an, le 29 avril 2013. Un an après, peu de progrès ont été effectués et cette manifestation voulait rappeler les revendications initiales du mouvement pour plus de liberté, plus de droits, plus de représentativité pour les Haratines. Notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia, a couvert cette manifestation. Écoutons ce reportage.
Liberté, liberté, scandaient les milliers de manifestants en majorité jeunes. La marche a débuté vers 18h dans la proche banlieue de Nouakchott, la destination, le centre-ville. Parmi les marcheurs, Tabara Mbodj, une trentaine d'années. Elle n'est pas haratine, mais a tenu à participer.
La communauté haratine est victime quand même de beaucoup d'injustices. Et peut-être dit depuis longtemps, ils n'ont pas été à l'école et donc de ce fait, ils n'ont pas acquis vraiment leurs droits sur cette terre. Et nous, on est là en tant que militantes pour soutenir cette cause qui est une cause juste et noble.
Des partis politiques et des organisations de la société civile ont également pris part à cette marche. La Mauritanie a adopté une loi criminalisant les pratiques esclavagistes en 2008. Dans la constitution du pays, l'esclavage a été déclaré crime contre l'humanité en 2012. Mais en pratique, ces textes ne sont guère appliqués et les Haratines, descendants d'esclaves, sont toujours à la traîne des autres communautés du pays. Il n'y a pas de statistiques fiables, mais il est admis par beaucoup que les Haratines constituent la majorité de la population mauritanienne, une majorité très faiblement représentée dans les hautes fonctions étatiques. C'est pourquoi, dans le manifeste, il est proposé, je cite, de revoir les règles de partage du pouvoir pour attribuer un quota stable de 40% au minimum à la communauté haratine au niveau des institutions constitutionnelles, du gouvernement, des administrations et établissements publics et des postes de hauts fonctionnaires de l'État. Les Haratines souffrent aussi de la pauvreté. Haruna Cissé, une cinquantaine d'années, est un descendant d'esclaves. Il est venu marcher pour plus de justice sociale.
C'est une frange marginalisée, soumise. Dans l'histoire, elle a été sous le joug de l'esclavage. Aujourd'hui, l'État mauritanien, après 50 ans, n'a rien fait pour cette frange. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et elle veut l'exprimer par cette marche pour plus d'égalité, plus de répartition de richesses entre toutes les franges de la population mauritanienne et pour qu'il y ait une justice sociale.
La situation d'extrême pauvreté des descendants d'esclaves est d'ailleurs soulignée dans le manifeste. Il y est noté, je cite, que plus de 80% des 1 400 000 personnes les plus pauvres en Mauritanie sont issues de la communauté haratine. Plus de 85% des 1 500 000 analphabètes en Mauritanie en sont également issus. Près de 90% des petits paysans sans terre, du fait de la tenure traditionnelle du sol ou de l'exploitation féodalo-esclavagiste, se recrutent au sein de ce groupe. Fin de citation. Pour corriger ces inégalités, les autorités mauritaniennes ont mis en place une agence chargée de la lutte contre la pauvreté et des séquelles de l'esclavage. Nous n'allons plus nous taire, nous allons revendiquer nos droits, scandaient les marcheurs à l'arrivée. Gros bémol, deux grands absents à cette marche. L'IRA, initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste dirigé par Biramul Daoul Abeid, et l'APP, Alliance populaire progressiste dirigée par une des figures historiques de la lutte pour l'émancipation des Haratines, Messoudoul Boulkhair, ont boycotté cette marche. Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Pendant que les experts tentent d'enrayer l'épidémie en Afrique de l'Ouest, des survivants et leurs familles se disent stigmatisés. Certaines personnes sont bien accueillies après leur guérison, mais beaucoup sont rejetées à cause de la peur de la contagion. Les explications de Nathalie Barge.
Les proches de Joseph Taylor se sont réunis dans le comté de Lofa, au Liberia, la semaine dernière pour accueillir cet homme de 48 ans qui a été faussement soupçonné d'être infecté par le virus Ebola. Son épouse est décédée ce mois d'avril après avoir contracté la maladie. Les gens voulaient me lapider, mais j'ai dit que je résisterais et que j'y arriverais. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'être à nouveau parmi vous. Vous pouvez être près de moi, vous êtes mes amis, je pardonne à tout le monde. Lors d'une cérémonie, le ministère de la Santé du Liberia a présenté un certificat médical à Taylor, confirmant qu'il n'est pas atteint par le virus. Le médecin-chef du Liberia, Bernice Dan, estime que la discrimination dont sont victimes les patients et leur entourage est un sérieux défi. Ce qui lui est arrivé à beaucoup d'autres, dans d'autres communautés. Aujourd'hui, nous pouvons savoir, nous pouvons tous savoir que ceux qui entrent en contact avec des personnes infectées peuvent effectivement être en sécurité, vivre dans la communauté et vaquer à leurs occupations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola ne peut être transmis que par contact direct avec une personne infectée. Mais beaucoup de gens, comme Mariam Camara, commerçante au marché de Conakry, sont toujours réticents.
Pour un départ, on nous a dit que c'est une maladie qui n'a pas de remède. Après, entre-temps, on a encore appris qu'il y a des personnes qui sont guéries de cette maladie. Mais vraiment, moi, personnellement, même s'il y a des personnes qui sont guéries de cette maladie, je me méfierais. Je pense que vraiment, il faut s'en méfier. Une maladie, par exemple, qui est en train de tuer des gens n'importe comment, et on dit encore que cette maladie, on trouve des remèdes pour ça, c'est pas trop rassurant, à mon avis. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier.
Un hôpital de Conakry où 3 personnes sont mortes de l'Ebola a été contraint de fermer car personne n'osait entrer dans le bâtiment. Des agents humanitaires font du porte-à-porte à Conakry pour expliquer à la population comment le virus se transmet et se propage.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 99 FM, notre fréquence à Abidjan. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Souleymane Tarawali. Au micro, Claire Morin-Gibour. Nous nous quittons en musique avec John Coltrane qui interprète avec Johnny Hartman My One and Only Love. Notre façon à nous, à Sahel Plus, de célébrer la journée internationale du jazz. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur La Voix de l'Amérique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
The touch of your hand is is like heaven, a heaven that I've never known. The blood.